Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Dans le débat sur la fin de vie qui anime la société française, le citoyen est sommé d'avoir un avis bien tranché et de dire si oui ou non il est favorable à l'euthanasie. Mais nous bien armés pour penser la fin de vie, connaissons-nous les implications éthiques de la fin de vie, les droits du patient et des familles et les dispositions légales autour des obligations des médecins et des soins palliatifs? C'est en ces termes qu'est présenté l'ouvrage que j'ai sous les yeux, pensé La fin de vie. On en parle tout de suite avec son auteur. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Ricot. Bonjour Jacques Ricot.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de philosophie, conférencier sur différentes questions philosophiques et éthiques, particulièrement autour de ces problématiques du pardon, de la dignité, de la fin de vie, de la bioéthique. Vous êtes formateur des acteurs en soins palliatifs et depuis 25 ans, vous accompagnez les personnels de santé et des personnes en fin de vie. Et vous venez donc de signer cet ouvrage « Penser la fin de vie » avec ce sous-titre à l'intérieur « L'éthique au cœur d'un choix de société », un livre qui a été préfacé par Jean Leonetti. On pense évidemment à la loi Leonetti et Philippe Pozzo di Borgo, que beaucoup d'auditeurs évidemment connaissent. Pourquoi ce livre, Jacques Ricot, sur ce terme « penser la fin de vie » parce que c'est important, penser la fin de vie.
S'agissant d'un philosophe comme moi, c'était le moins qu'on puisse attendre qu'en effet il y ait un peu de recul et de réflexion, non pas de surplomb en altitude bien entendu, mais enfin de se donner les outils pour réfléchir, ce qui n'est pas souvent fait dans une question où l'émotion l'emporte souvent sur la raison, pour réfléchir donc à ces questions complexes qui engagent énormément notre présent et notre avenir. Et donc, oui, j'ai voulu porter un regard de philosophe. Alors, pourquoi ai-je écrit ce livre-là? Eh bien, d'abord parce qu'il me fallait récapituler ce qui, au long des années, et même, je peux le dire, des décennies, a été pour moi un certain nombre d'articles que j'avais publiés, de livres aussi, et il me fallait faire le point en 2017 sur la situation présente. Au fond, j'ai voulu ce livre comme une sorte à la fois de manuel pour les gens qui cherchent à être éclairés, qu'il s'agisse de soignants, de professionnels de santé ou de bénévoles d'accompagnement, ou plus largement pour le grand public qui bien souvent manque de repérage. Je m'en aperçois chaque fois que je fais une conférence et que j'entends les questions qui me sont posées à la fin de ces conférences.
Effectivement, et vous le dites, je l'ai dit en introduction de cette émission, sommes-nous bien armés pour penser la fin de vie? Semblerait que non.
Armé, c'est le mot juste, hein, c'est-à-dire de quelle armature disposons-nous pour réfléchir à ce que ça veut dire laisser la mort venir, puisque c'est notre destin à tous. Et aujourd'hui, nos contemporains sont davantage préoccupés par les conditions du mourir que par une réflexion à proprement parler sur la mort elle-même, ce qui est assez, dans un sens, étrange.
Jacques Ricot, on a l'impression qu'on est encore dans une société... Alors, je parle de la société française, mais ça pourrait être peut-être la société occidentale, européenne. On est dans une société où la mort est encore taboue et on ne veut pas penser la mort. Est-ce qu'on peut penser la mort, d'ailleurs, c'est une question, mais on ne pense même pas sur la mort.
C'est très paradoxal parce que à la fois, tout le monde vous dira « oui, oui, la mort est un tabou, il faut en parler, il faut en parler ». Et en même temps, quand vous sondez dans l'intimité... chacune des personnes concernées, vous entendez un discours qui se propage à une vitesse vertigineuse sur ce qu'on appelle une bonne mort. Une bonne mort, aujourd'hui, c'est devenu une mort aseptisée, une mort rapide, une mort dont on ne s'aperçoit pas. Et la même personne qui va vous dire une minute plus tôt que la mort est un sujet tabou va vous dire aussitôt après qu'elle ne veut pas voir la mort en face le jour où elle se présentera. Et donc là, il y a quelque chose qui intrigue, évidemment.
Qu'est-ce que la mort ?
Qu'est-ce que la mort? C'est une question que les philosophes se posent depuis qu'il y a des hommes. Qu'est-ce que la mort? C'est précisément une notion impossible à définir, puisque, comme le disait le philosophe Épicure dans l'Antiquité, quand la mort est là, je n'y suis plus, et quand je suis là, la mort n'y est pas. Donc c'est un jeu de cache-cache. Et penser, vous aurez remarqué que j'ai pensé la fin de vie dans mon titre, mais je n'ai pas prétendu penser la mort. Par contre, on y pense à la mort. On ne peut pas penser la mort tout simplement parce que nul n'est revenu nous en parler de cette expérience unique dans une existence qui est que la vie cesse. Mais dès lors que la vie cesse, sommes-nous armés, sommes-nous en mesure de parler de ce qui n'est pas expérimentable au sens où on ne peut pas faire deux fois la même expérience.
Est-ce que cette conception de la mort, elle a évolué au cours des siècles et au cours de ces dernières décennies, en tout cas, dans la définition la mort, c'est quoi? C'est un événement naturel?
Alors, c'est un événement naturel dans le sens où il y a des critères médico-légaux pour la caractériser. Mais en posant l'adjectif naturel, on va tout de suite s'apercevoir qu'elle n'est pas seulement naturelle, mais qu'elle est aussi culturelle. Un mot cependant de la mort naturelle. Les critères de la mort ont évolué au cours des siècles. Au départ, on considérait qu'il suffisait que l'appareil sensoriel soit apparemment paralysé pour que l'on considère que la mort était survenue.
Voilà, on se fiait à la respiration.
Et puis après, c'était la respiration, mais pas tout de suite. Il y a eu des sociétés où ce n'était pas la respiration. Alors après, ça a été la respiration. Alors vous savez, on mettait un miroir devant la bouche du patient et si au bout de 20 minutes, il n'y avait pas de buée, on considérait qu'il n'avait pas respiré. Mais hélas, il y a eu, rares, mais des cas où il est arrivé que le patient, finalement, dans son cercueil, se mette à dire « mais je suis encore là ». Alors donc, le critère n'a pas été suffisant et on est passé après au critère de l'arrêt cardiaque. Mais même lui a été mis en doute, ne serait-ce que le jour où on a, après une opération, extrait le cœur d'une personne dans l'intention de lui en greffer un autre. Mais le temps que l'opération mette ce cœur hors circuit, si je puis dire, eh bien, le patient n'était pourtant pas considéré comme mort. Alors que selon, il a donc fallu modifier. Et aujourd'hui, la définition, c'est la mort cérébrale, avec d'ailleurs un certain nombre de précautions à prendre. Quand on a une hésitation, on doit faire des électroencéphalogrammes et vérifier qu'ils soient bien plats avec plusieurs heures d'intervalle.
Mmh. Ce qui est peut-être différent dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. Je pense à la culture asiatique, par exemple.
Alors, asiatique, peut-être pas tellement asiatique que japonaise. Ce sont les Japonais qui, en effet, sont très résistants à cette idée qu'il y aurait un organe spécifique définissant l'arrêt des fonctions vitales définitives. Les Japonais ont une conception, enfin certains Japonais, parce qu'eux aussi sont en voie d'occidentalisation rapide, certains Japonais, du tréfonds de leur culture, considèrent que la mort, finalement, concerne l'ensemble de la personne. Et donc, on ne peut pas mécaniquement dire, voilà, il y a un organe plus un organe et encore un organe. Ce qui explique d'ailleurs la réticence qu'il y a eu dans cette culture, dans cette civilisation, pour la greffe d'organes. Parce qu'on avait l'impression à ce moment-là de ponctionner, enfin, les mots étaient quelquefois un petit peu violents, sur un vivant ou quelqu'un dont on ne savait pas avec précision, avec certitude qu'il était mort, un de ses organes pour le transférer à une autre personne. Donc la mort, en effet, fait partie de la réflexion du philosophe et c'est la raison pour laquelle, dans le tout début de ce livre, j'essaie de faire un petit peu le point sur les représentations que nous avons de la mort parce que les soignants qui sont au contact de personnes dont l'horizon de la fin de vie est proche, ces personnes sont confrontées à la mort d'autrui, mais à travers la mort d'autrui, évidemment, à l'image qu'ils se font de leur propre mort.
Est-ce que cette notion justement de naître et mourir, hein, puisqu'on ne peut pas dissocier les deux, hein, nous sommes des êtres finis, mais nous commençons par la naissance et nous finissons par la mort, mais ce ne sont pas que des événements biologiques.
Alors ce sont, comme on l'a dit tout à l'heure, des événements à la fois naturels, biologiques, comme vous dites, mais aussi culturels. Naissance et mort ont une caractéristique en commun qui est d'être des événements non réitérables. Ils ne se produisent qu'une fois et tous les autres événements que nous connaissons dans notre vie, eux, sont réitérables. Ils ont donc une particularité. Nous avons un commencement, nous avons une fin. C'est d'ailleurs une manière de dire notre finitude. C'est pas la seule manière d'ailleurs, parce que le seul fait d'être incarné dans un corps signifie que nous sommes des êtres dans l'espace avec une délimitation spatiale. Mon espace corporel n'est pas le vôtre, ni celui de quiconque. Par conséquent, la finitude, elle s'exprime à la fois par le temps, début et fin, et aussi par l'espace. Alors, cette finitude renvoie à quelque chose qui est culturel dans le sens où la mort, nous savons qu'elle va survenir, mais au fond, est-ce que nous y croyons vraiment ? J'aime à citer cette remarque dans un sens assez amusante de deux retraités, un couple de retraités, où l'un des deux dit à l'autre quand je mourrai, je me retirerai dans telle maison. Et donc, il lâche dans sa formule que le quand l'un de nous deux mourra, ça ne peut pas être lui. Ça peut être que l'autre.
Oui, alors cette notion justement de mort aujourd'hui, elle conditionne justement cette conception que l'on a peut-être de ne pas vouloir mourir, en tout cas de maîtriser cette mort pour la repousser, de nous croire immortels.
Alors c'est la tentation moderne, il y en a deux, qui sont d'ailleurs symétriques et qui à mon avis sont même complémentaires. L'une de ces tentations, c'est de dire, eh bien, il faut repousser sans cesse nos limites, et on se met à rêver d'ailleurs d'immortalité terrestre, il y a des sociétés...
C'est ça, immortalité terrestre. Hein.
Oui, il y a des sociétés savantes, vous savez, ça existe en particulier aux États-Unis, qui disposent de gros moyens financiers et qui sont là pour permettre à des cadavres, dès aujourd'hui congelés d'ailleurs, d'être un jour réanimés quand la science aura trouvé les moyens de les prolonger indéfiniment. On appelle ça d'un joli mot que les Québécois nous ont proposé, le prolongévisme. Et alors cette idée que nous pourrions ne pas être finis, bien, c'est évidemment une tentation qui renvoie à ce que les Grecs avaient déjà dénoncé dans la démesure, c'est-à-dire l'homme se prend pour un dieu finalement quand il est dans cette logique-là. Et c'est d'ailleurs ce type de logique qui fait que la mort, qui doit être sans cesse repoussée, conduit parfois à ce qu'on appelle dans le grand public l'acharnement thérapeutique et qui est mieux désigné par l'obstination déraisonnable, qui fait que quelquefois on en fait trop. Et comme on en fait trop, eh bien on fait mal. Bien. Alors ça, c'est la première ligne de pente de notre modernité. Il y a une deuxième ligne de pente qui consiste à dire, et vous avez prononcé le mot, puisque de toute façon on va mourir et que ceci va échapper à notre maîtrise, eh bien autant anticiper le moment de la mort et donc choisir le moment où on va mourir. C'est évidemment un immense paradoxe parce que, enfin, anticiper le moment de la mort, c'est capituler deux fois, si on peut dire.
On veut mourir parce qu'on a peur de mourir.
On veut mourir parce qu'on a peur de mourir. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas toujours du premier coup et qui pourtant est une affirmation attestée depuis très très longtemps. Je prends l'exemple de Lucrèce, par exemple, philosophe et poète épicurien du 1er siècle avant Jésus-Christ. Lucrèce qui dit très exactement que, en effet, les gens se suicident parfois parce que vivre dans l'anxiété du fait que l'on doit mourir un jour est tellement insupportable qu'il faut anticiper ce moment et donc se tuer parce qu'on n'a pas envie de mourir. On n'a pas envie de mourir. C'est très étrange. Mais ce que dit Lucrèce n'est pas du tout isolé. Cette attitude assez étrange a été reprise par Montaigne, par exemple, et par d'autres grands écrivains, par d'autres grands philosophes. Il suffit, je crois, d'ailleurs, de connaître d'un peu près la mentalité de personnes qui disent vouloir anticiper leur mort pour s'apercevoir qu'en effet, contrairement à ce qu'elles disent, c'est la mort qu'elle redoute, alors qu'elle vous dise en même temps « mais je veux maîtriser ma vie ». Ben, il ne maîtrise rien du tout, au contraire, puisque la mort est par définition la démaîtrise. C'est là, encore une fois, une manière de s'incliner une nouvelle fois devant un événement inéluctable.
Pensez la fin de vie. On va poursuivre cette discussion après cette première pause dans l'émission.
En quête de sens, 01 56 56 44 00. Vous habitez Paris et sa banlieue? Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute? Devenez écoutant bénévole de SOS Chrétiens à l'écoute. Formation assurée. Écrivez à SOS Chrétiens à l'écoute, 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris. Téléphone 01 45 35 55 56. 01 45 35 55 56. Ou sur le site internet, un numéro qui a du cœur.
Monsieur et Madame Martin ont leur robinet qui fuit. Ils perdent 5 litres d'eau par heure, sachant qu'un litre d'eau coûte...
Monsieur, j'ai la solution.
Déjà ?
Ben oui, faut qu'ils appellent plombier.com.
Plombier.com ? Bravo, Kevin. Ça, c'est un problème résolu.
Une fuite d'eau, plombier.com. Un évier bouché, plombier.com. Votre chaudière est en panne, plombier.com. Déplacement, une heure de main-d'œuvre, petite fourniture est garantie à 149 euros. Appelez plombier.com au 0800 08 44 44.
Plombier.com, plombier.com.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok, mais pour quoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot, tous les dimanches à 9h30. Sur Radio Notre-Dame. En quête de sens, Sophie Noaille.
Le débat sur la fin de vie anime évidemment notre société française régulièrement, oui, mais le fait-elle de façon opportune? On essaye de creuser le sujet aujourd'hui avec Jacques Ricot, auteur de ce livre « Penser la fin de vie ». On a parlé, Jacques Ricot, en début d'émission, de ce que c'était la mort, si on peut vraiment lui donner une définition, en tout cas ce que peut penser sur la mort. On ne pense pas suffisamment sur la mort dans notre société.
Oui, autrefois, dans les programmes de terminale de philosophie, la mort figurait en toutes lettres, en particulier dans les séries littéraires, et voilà que le mot a été supprimé. Le mot, pas la chose, évidemment, les collègues sont assez intelligents pour la réintroduire, mais enfin, ça en dit long sur peut-être cette façon que nous avons aujourd'hui d'occulter cette question. Penser sur la mort, je préfère cette expression, comme nous l'avons dit dans la première séquence de cet entretien, à penser la mort, parce que penser la mort, c'est penser quelque chose qui, par définition, nous échappe à nos prises. Mais penser sur la mort, oui, c'est pas forcément morbide de se le répéter chaque jour, que nous serons un jour ou l'autre ailleurs que là où nous sommes, c'est-à-dire que notre existence aura une fin. Et donc, le seul fait de savoir que nous avons une limite rend cette existence qui est la nôtre infiniment précieuse. Si la vie n'avait pas de limite, si elle n'était pas finie au sens philosophique du terme, s'il n'y avait pas cette finitude, eh bien, serions-nous capables d'en jouir et surtout d'effectuer un certain nombre de choses, de réalisations, si nous savions qu'il y avait toujours moyen de repousser ce que nous allons faire aujourd'hui parce qu'il y aurait toujours un lendemain? Eh bien non, il y aura une journée dans notre vie et une seule où il n'y aura pas de lendemain. Et donc, cela veut dire que chaque jour est précieux, chaque jour compte. C'est parce que nos jours sont comptés qu'ils comptent.
Mmh. Mais on le verra, hein, et par rapport à cette tentation finalement de l'euthanasie, on verra que ce désir de vie est finalement toujours le plus fort, quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille en le dire.
Ah oui, je vais même plus loin. Les personnes qui disent « je veux mourir », et je veux, par exemple, qu'on me donne le poison mortel pour que je puisse me suicider, ou qui disent « je veux me faire euthanasier ». Ces personnes-là, quand on regarde de très près, donnent un sens à leur existence en posant cette revendication. Et comme le dit un de mes collègues philosophes que je cite dans cet ouvrage, Éric Fourneret, lui-même s'appuyant sur des philosophes américains comme, ou une américaine comme Cora Diamond, eh bien, on s'aperçoit que c'est un vouloir vivre qui s'exprime encore dans un vouloir mourir. C'est assez étrange, mais quand on a, comme moi, 25 ans d'expérience auprès des personnels qui accompagnent les personnes en fin de vie, on s'aperçoit que l'idée n'est pas si incongrue que cela. Le fait de, par exemple, proclamer haut et fort que va mourir, n'est-ce pas une ultime affirmation d'existence?
Dans cette conception aujourd'hui qu'on a de la mort, Jacques Ricot, on le disait tout à l'heure, avec ce désir de contrôle, hein, et on essaye de la contrôler de plus en plus avec des paramètres biomédicaux, comme vous le dites, hein, dans un souci majeur de ces représentations contemporaines. Vous avez cité le mouvement prolongéviste, qui est une forme extrême du libéralisme individualiste. On en oublie le regard du mourant, on en oublie la personne derrière tout ça.
Alors là, vous élevez le débat à un très haut niveau, et je vous en remercie, parce que, en effet, je crois que le philosophe ne peut pas ne pas constater, avec les sociologues d'ailleurs, quel est le mouvement de notre société occidentale, en tout cas. Ce n'est pas le cas pour d'autres sociétés que la nôtre, mais dans le mouvement occidental, qu'est-ce qui compte en priorité? C'est toujours la réalisation de soi, et même, allons plus loin, le fait que chacun d'entre nous doit absolument user de son seul bien, et ce seul bien, c'est sa liberté. D'où cette revendication permanente d'une extension indéfinie des droits individuels qui pourrait finir, ça c'est une remarque plus générale que je formule ici, qui pourrait finir par déliter le lien social lui-même. À force de tout concentrer sur le désir individuel et la satisfaction que la société lui doit, on ne s'aperçoit pas que la société, à ce moment-là, devient exclusivement le moyen de satisfaire donc des désirs individuels, et elle n'est plus du tout ce qui cimente l'intersubjectivité, ce qui cimente la relation des individus les uns avec les autres, ce qui est de l'ordre finalement de ce qu'on appelle l'intérêt général et que même on pourrait oser nommer le bien commun.
Le bien commun. Mais on est, et quand on est aujourd'hui, on dépend des autres. On dépend tous des uns des autres. On dépend du regard des autres. On existe dans le regard de l'autre.
Alors la dépendance est évidemment une donnée incontournable de la condition humaine. Et cela se voit évidemment au moment de la naissance. Le petit homme ne peut pas devenir homme si il n'est pas dans une dépendance totale. Et puis, bien entendu, il y a d'autres formes de dépendance dans l'existence qui concernent peu ou prou, chacun d'entre nous, même les gens en bonne santé, sont dépendants, bien entendu. Je suis dépendant d'autrui pour mon alimentation, je suis dépendant d'autrui pour mes transports. Enfin bref, nous sommes dans une interdépendance généralisée. Alors, bien évidemment, les personnes en situation de handicap ou qui sont très affaiblies, très diminuées par l'âge ou par la maladie, sont dépendantes. Mais même toutes les personnes qui se pensent réellement au sommet de leur activité, de leur forme physique et mentale, même là sont dépendantes. Mais tout se passe aujourd'hui comme si le lien de dépendance était récusé comme étant une anomalie, puisque la dépendance finirait par nous faire croire que nous avons perdu cette autonomie après laquelle nous courons tous les uns et les autres sans nous apercevoir qu'il n'y a d'autonomie que relationnelle, que je ne puis être libre et moi-même dans la pleine réalisation de moi que dans la mesure où je reste en lien avec autrui. C'est quand même cela la condition humaine qui peut-être est en ce moment mal perçue par des courants contemporains.
Et par là même, ça conditionne évidemment notre conception de la mort et notre conception du mourant. Quel regard portons-nous aujourd'hui sur la personne qui va mourir et qui va conditionner justement tous ces débats? Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure.
Alors le mourant est une expression assez étonnante quand on prend le temps d'y réfléchir, parce que c'est déjà mettre la personne du côté de la mort et non pas du côté du vivant. Le mourant est une expression qui a été critiquée par le psychanalyste Robert Higgins, avec lequel j'ai eu le bonheur de publier il y a quelques années un ouvrage. Robert Higgins explique très très bien que, en fait, il n'y a que deux catégories, les vivants et les morts. Et si nous inventons une tierce catégorie, celle de mourants, c'est peut-être parce que nous ne pouvons plus voir dans celui dont l'horizon est très restreint, très diminué, nous ne pouvons plus voir un vivant. Et donc nous le considérons comme déjà mort. C'est pourquoi nous avons choisi de substantiver le participe présent du verbe mourir, mourant. Et mais cela est dangereux. Alors je suis comme tout le monde, j'utilise le mot mourant, bien entendu. Mais je devrais dire, peut-être moribond, mais je devrais dire surtout vivant jusqu'à la fin. Vous voyez, dans mon livre qui s'intitule Penser la fin de vie, que les presses de l'école des hautes santé, l'école de santé publique de Rennes a bien voulu publier. Dans ce livre, penser la fin de vie, le mot le plus important, c'est pas le mot fin, c'est le mot vie, parce que bien évidemment, à quelque moment que l'on soit de son existence, que ce soit vers la fin, au début ou au milieu, eh bien, c'est la vie qui est notre seul objet. Et comme je le disais tout à l'heure, et comme nous l'avons d'ailleurs même répété, ce n'est pas la mort dont nous pouvons parler, c'est de la vie, et encore de la vie, et de la vie jusqu'au dernier souffle.
Mais Jacques Ricoux, on le voit dans toutes ces affaires très médiatisées. On va essayer de justement essayer d'expliquer un peu pourquoi on médiatise ce genre d'affaires. Toutes ces affaires qui reviennent sur le devant de la scène régulièrement, qui demandent de légiférer sur l'euthanasie, etc., ou le suicide assisté. Il y a une notion qu'on l'on met toujours en avant, c'est d'abord la liberté justement ultime de choisir de mourir.
Oui, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette mise en avant de la liberté est relativement nouvelle. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, ce n'était pas la question de la liberté qu'on mettait en avant, c'était celle de la dignité.
La dignité.
C'était celle de la dignité, c'est-à-dire le fait qu'il y avait des états, des situations d'êtres humains qui étaient tels, des déchéances, des dégradations, que vraiment la vie ne valait plus d'être vécue. Et c'était au nom de cette dignité perdue que l'on revendiquait la légalisation ou la dépénalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui nous en soyons sortis, non, parce que l'expression « mourir dans la dignité » continue à être dans la bouche des journalistes
et
souvent.
Et on reviendra sur cette notion de dignité, évidemment.
Et du grand public, elle continue à être synonyme de euthanasie. Mais mourir dans la dignité a laissé la place finalement à mourir dans la liberté. Et ça, c'est une nouveauté de la dernière décennie. Avant, on ne disait pas les choses ainsi. Donc la liberté est devenue notre seul étendard. Mais c'est une liberté qui est quand même étrange, puisque, au fond, demander à mourir, c'est non seulement perdre la vie, mais c'est perdre la liberté, y compris la liberté de changer d'avis avant de mourir. Il y a quand même des paradoxes que je ne me lasse pas de signaler et de souligner. Lorsque on demande une maîtrise pour ce qui est de l'ordre de la démaîtrise, lorsque l'on croit qu'en anticipant la mort qui de toute façon va venir, on pose un acte de liberté. J'y vois au contraire une sorte d'enfermement dans un désir de fausse toute puissance sur soi-même qui nous serait donné par cette sortie volontaire de l'existence qui caractérise le suicide ou ses succédanées que sont l'euthanasie.
Je fais référence, Jacques Ricoux, à la dernière affaire en date qui a fait la une des médias. Il s'agit du cas de Anne Baire, hein, qui s'est adressée au candidat à l'élection présidentielle 2017, justement en essayant d'exprimer cette ultime liberté qu'elle revendique, non pas simplement pour elle-même, mais pour tout le monde.
Alors, elle dit quand même qu'elle le revendique pour elle-même. Et en même temps, elle dit que c'est à chacun de décider s'il veut continuer à vivre ou pas. Moi, j'ai décidé de ne pas continuer à vivre et je ne comprends pas que l'on ne me prouve pas. Enfin, du moins que la législation ne me permette pas de poser... En fait... Bon, je vous avouerai que je suis gêné par cette affaire pour plusieurs raisons. Ça jette un grand trouble, un grand malaise. Il se trouve que nous sommes aujourd'hui le 11 octobre et qu'aujourd'hui, un grand quotidien régional, Ouest-France, publie une tribune que j'ai rédigée il y a déjà quelques jours sur cette affaire. Et il se trouve, alors qu'est-ce que je dis? Je dis que Madame Baire, que je ne cite pas d'ailleurs dans mon texte, mais je ne voulais pas lui faire de la publicité, c'est quelque chose de malsain, je trouve, surtout au moment où un livre d'elle va paraître de façon posthume. Enfin, il y a là une orchestration qui peut provoquer un réel malaise. Mais enfin, qu'est-ce que l'on peut dire dans cette pénible affaire? Mais d'abord, une chose positive, figurez-vous. C'est que cette dame a attiré l'attention du grand public, des médias, sur la maladie de Charcot, qui est en effet une maladie neurodégénérative qui est assez redoutable, qui, lorsqu'elle est bien prise en charge, permet tout de même à des personnes de vivre plusieurs années et quelquefois même plusieurs dizaines d'années, dans des conditions qui sont évidemment pas celles dont chacun d'entre nous pourrait rêver, mais qui sont tout de même, à leurs yeux, supportables. Et aujourd'hui, ils arrivent, mais on ne les entend pas beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui, dans la même situation que cette dame, disent « mais cette dame est en train finalement de dire tout haut et tout fort » que notre vie ne vaut pas d'être vécue puisque la sienne ne vaut pas d'être vécue. Elle prétend faire un cas particulier de son expression de liberté, mais en réalité, son discours, son propos a un retentissement terrible sur les personnes qui sont dans cette terrible maladie de Charcot, ou d'autres maladies d'ailleurs qui sont aussi impressionnantes et aussi graves. Je pense à des amis tétraplégiques qui m'ont dit récemment encore à quel point ils étaient choqués, heurtés par la complaisance médiatique du moment à mettre en avant la liberté d'une personne qui, au demeurant d'ailleurs, en faisant ce qu'elle a fait, c'est-à-dire en courant sur les plateaux, paix à son âme, hein, il ne s'agit pas du tout ici de critiquer cette personne en tant que personne, certainement pas. Mais enfin, les plateaux qui, avec complaisance, lui ont tendu les micros, ont ouvert devant elle les caméras avant qu'elle ne décide d'aller se faire euthanasier en Belgique, ces médias ont-ils pris le temps, le soin de regarder les effets délétères.
Et de prendre en considération toutes ces personnes.
Sur les autres personnes. C'est ça qui est assez dramatique ici. Alors, on a héroïsé une personne qui, à force d'annoncer publiquement « je vais mourir et je vais me donner la mort ou je vais demander qu'on me la donne », s'est finalement interdite de revenir sur sa décision parce que de quoi aurait-elle l'air si au dernier moment elle avait dit oh « ben non, finalement, je continue à vivre ». Elle s'était empêchée par avance, si vous voulez, d'exercer cette ultime liberté qui consiste à pouvoir changer d'avis.
Jacques Ricot, pourquoi une telle instrumentalisation de ces cas que l'on voit ressurgir au fur et à mesure qui sont mis en avant, justement, comme ça?
Parce que plutôt que prendre le temps de la réflexion, de la raison, prendre le temps de penser à toutes les conséquences d'une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, les militants de ces causes savent qu'il faut jouer non pas sur l'argumentation, mais sur le raisonnement, mais sur l'émotion. Et qu'est-ce qu'il y a de plus porteur, qu'est-ce qu'il y a de plus vendeur en termes d'audimat qu'une mort programmée, par exemple, et la caisse de résonance, l'orchestration qui va résulter de ce décompte à rebours de l'acte annoncé. La chronique d'une mort annoncée, évidemment, ça fait plus saliver qu'une mort anonymement accompagnée. Les héros du quotidien, en cette affaire, ne font pas la une de nos télévisions, bien entendu.
Je voulais vous citer Jacques Ricot, Jean-Luc Romero, qui dit à un moment donné par rapport à cette histoire d'Anne-Bert, « À un moment, la vie n'est plus la vie. »
Je trouve que c'est terrifiant. Je trouve que dire cela comme ça, c'est une insulte aux millions de personnes diminuées, vulnérables, ou plus exactement, c'est une invitation directe qui leur est adressée pour leur dire « Écoutez, votre vie est un fardeau, arrêtez donc de vivre, ce sera aussi bien pour tout le monde. » Bon, il ne le dit pas, Jean-Luc Romero, que ça fera des économies à la sécurité sociale. Bien entendu, je ne vais pas quand même jusque-là. Mais se rend-il compte que c'est cela la logique même de ce type de propos? Personne ne peut juger d'une vie, et surtout les bien portants ne peuvent pas juger de ce qu'est la vie d'un mal portant. Vous avez tout à l'heure rappelé que Philippe Pozzo di Borgo, qui est l'auteur qui a inspiré le film Intouchable, avait préfacé mon ouvrage. Mais pourquoi l'a-t-il préfacé? Et que dit-il dans cette préface? Bien, il dit que lui aussi, il y a une vingtaine d'années, s'il avait pu se suicider, il l'aurait fait.
Et il aurait signé les pétitions.
Il aurait signé les pétitions. Et le suicide assisté aurait été son drapeau. Il l'aurait fait. Il le dit. Et puis maintenant, il dit, mais heureusement que j'ai été protégé par une loi qui interdisait une telle offense à ma vie. Je suis tétraplégique aujourd'hui, c'est-à-dire que sans être atteint de la maladie de Charcot, j'ai moins de possibilités que les malades, puisque je suis entièrement dépendant. Quand je vais au restaurant avec Philippe, eh bien, c'est moi qui lui donne à manger, naturellement, comme toutes les personnes qui l'accompagnent. Mais vous verriez comment on peut être joyeux dans ces situations, l'un et l'autre. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que cette phrase que vous venez de citer du président actuel de l'association du droit de mourir dans la dignité, et encore une fois, c'est le droit de mourir dans la liberté qui est en question, elle est finalement une offense, sans qu'il l'ait sans doute voulu, une offense à tous ceux qui continuent à vivre et qui se battent pour continuer à vivre dans des situations pourtant douloureuses et délicates.
On va poursuivre cette discussion, Jacques Ricot, sur ces questions de la fin de vie. Et on va évidemment parler du soin de la personne, des soins palliatifs et puis de cette notion de dignité. On y revient juste après cette pause musicale.
Radio Notre-Dame.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous nos faces? Tous les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Qu'en se mordant la bouche, le gouant revenait. Et qu'il y avait du sang qui ne sécherait pas. Tu me donnais la main pour boire de ce sang-là. Je ne t'ai jamais dit. Nous sommes immortels, immortels, immortels. As-tu pensé parfois que rien ne...
Dominique A, immortel. Pour cette émission consacrée à la vie, penser la fin de vie avec Jacques Ricot, qui est auteur de cet ouvrage paru aux éditions Presse de l'École des Hautes Études en Santé Publique, un ouvrage qui vient de paraître et qui a été préfacé par Jean Leonetti et Philippe Pozzo di Borgo. À propos de Leonetti, d'ailleurs, Jacques Ricot, cette loi aujourd'hui, est-ce qu'elle est bien appliquée? Est-ce qu'on la comprend? Est-ce qu'elle est intégrée dans le monde médical?
La loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, qui a été précisée, complétée par la loi du 2 février 2016, où Claes et Leonetti étaient associés, en effet, cette loi est en effet toujours assez méconnue, malgré les efforts assez remarquables qui ont été faits pour la propager. Mais voilà, moi qui suis très souvent au contact des personnels soignants, et les médecins en particulier, je m'aperçois que plus on avance et moins il y a de médecins qui accompagnent leurs patients jusqu'aux derniers instants, je ne dis pas aux dernières minutes bien entendu, mais aux derniers jours même, parce que de plus en plus, le travail de préparation à la mort est un travail de spécialiste en cancérologie, en soins palliatifs, etc. Alors, du coup, il y a une conséquence, c'est que l'immense majorité, une grande majorité des médecins se trompent sur ce que dit très précisément cette loi, parce que ce n'est pas si simple, en effet, de comprendre, par exemple, la différence qu'il y a entre pratiquer une injection létale qui fait mourir directement le patient et débrancher des tuyaux, parce que on va considérer qu'à un moment donné, on est dans une obstination déraisonnable. Dans les deux cas, oui, un acharnement thérapeutique. Dans les deux cas, la mort va suivre. Mais justement, tout va se mélanger dans leur tête, va se brouiller. Et on va s'apercevoir qu'il y a une difficulté à maîtriser justement ces nécessités d'accompagnement des derniers moments, parce que les actes n'ont pas la même coloration éthique et même médicale. Donc, je ne donne qu'un seul exemple, mais il y en a d'autres qui montrent que le corps médical est parfois démuni pour s'emparer d'un dispositif législatif voté pourtant déjà en 2005, mais dont Robert Badinter, lorsqu'il avait été auditionné, comme je l'avais été moi-même d'ailleurs en 2008, dont Robert Badinter, notre grand juriste, avait dit « mais il faut 30 ans pour que réellement on s'approprie une loi ». Alors c'est un peu désespérant que d'entendre cela, mais en même temps ça veut dire qu'il ne faut jamais se précipiter et considérer que le temps d'appropriation et de formation est toujours très, très long.
Mmh. On déplore en France d'ailleurs le manque de lits, le manque d'unité de soins palliatifs.
Et pourtant des gros efforts ont été faits. Il faut quand même saluer les efforts des gouvernements successifs. Il y a une réelle progression, mais il y a encore des inégalités de territoire et évidemment il y a encore beaucoup à faire. La France n'est pas le plus mal placé des pays dans le monde. Nous sommes, je crois, à peu près au 10e rang selon un certain nombre de critères. Mais enfin, il reste encore beaucoup à faire, c'est certain.
Jacques Ricot, il paraît quand même légitime d'entendre ces personnes qui, à un moment donné, qui souffrent de maladies parfois incurables ou qui ont de toute façon une issue fatale. Il est légitime de les entendre et qu'ils demandent un soulagement.
Non seulement c'est légitime de les entendre, mais c'est absolument un devoir élémentaire que de les entendre, de les écouter, d'accueillir leurs demandes, leur détresse, qui va s'exprimer de bien des façons. Je veux mourir, évidemment, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, mais à chaque fois, il faut savoir décrypter ce « je veux mourir » qui veut dire « je ne veux pas de la vie ». Qui m'est présentement donné. Je veux que la souffrance soit soulagée, y compris qu'on m'endorme s'il y a un mauvais moment à passer. Et donc tout ça doit être accueilli et entendu, évidemment. Là-dessus, il n'y a aucun doute possible. Et peut-être que d'ailleurs, nous payons aujourd'hui le retard que notre pays, et ce n'était pas le seul, mais ce n'est pas une satisfaction, une consolation, le retard que notre pays a pris dans le soulagement de la souffrance, dans le traitement de la douleur. On avait peur parfois, dont je parle des décennies antérieures, que tel traitement finisse par aboutir à l'abrégement des jours. C'est d'ailleurs très, très étrange, et je me permets de le souligner ici, qu'un pape pas réputé pour être particulièrement laxiste en matière de morale, je veux parler de Pie XII, et dit dès 1957 qu'il fallait soulager la souffrance des patients, y compris si ce soulagement avait comme conséquence indirecte d'abréger leurs jours. Eh bien, ce discours d'une autorité planétaire n'a pas été entendu. C'était en 1957. Il a fallu attendre la loi de 2005 dans son article 2 pour que ce soit écrit noir sur blanc.
Et l'Église se prononçait déjà contre l'acharnement thérapeutique.
Et également, le même pape, dans la même année d'ailleurs, mais pas le même mois, le texte dont je viens de parler, c'est février 1957, et celui qui condamne fermement l'acharnement thérapeutique, c'est novembre 1957. Là aussi, on dit parfois que les autorités religieuses sont en retard. Eh bien, l'objectivité oblige à dire le contraire. Elles étaient ici prophétiques, elles étaient ici en avance.
Qu'est-ce qu'on entend, Jacques Ricot, par soins palliatifs? Quelle définition pourrait-on donner?
Alors, soins palliatifs est une expression, sauf erreur de ma part, qui est née au Québec parce que on cherchait justement à désigner le fait de prendre soin de quelqu'un même quand on ne pouvait pas le guérir. Et il est vrai que dans la langue française, le mot soin signifie à la fois guérir et prendre soin, mais justement, pour sortir de cette ambiguïté, on a voulu distinguer les soins curatifs des soins palliatifs. À titre personnel, je crois que ce n'est pas une étiquette très, très heureuse, parce que palliatif, ça laisse entendre que on est au bout du bout, que ce qu'on a est incurable, inguérissable, et que donc,
voilà,
en
donc
effet,
on laisse tomber ce qui pourrait.
Et donc on pourrait être dans une logique d'abandon. Alors, le premier point, si les Canadiens ont inventé cette expression, c'est parce que le mouvement qui existait et qui allait dans ce sens-là était un mouvement britannique, et c'était le mouvement dit des hospices. Mais le mot hospice ayant une connotation assez fâcheuse dans la langue française, on n'a pas pu le transporter de la langue anglaise à la française, et donc il n'est pas surprenant que nos amis québécois, très vigilants et très attentifs à ne pas colporter des mots anglo-saxons indûment dans notre langue, à nous, Canadiens, francophones et français, eh bien, on proposait soins palliatifs. Mais alors, ce que je voudrais dire, avec là beaucoup d'énergie, parce qu'il faut tordre le cou à une idée reçue, c'est qu'on est toujours en palliatif quand, tout simplement, on est soulagé. Je donne dans mon livre l'exemple...
Soulager au niveau physique, de la douleur.
Oui, mais même au niveau psychique, tous les niveaux. Être soulagé, c'est ça qui importe, parce que prendre soin de quelqu'un, c'est évidemment un soin médical qui peut être prioritairement le soin physique, et c'est bien le moins qu'on puisse demander, c'est bien la première chose qu'on puisse faire que de soulager la douleur physique, sans quoi, évidemment, la personne complètement murée, et rien n'est possible. Bien, ce que je voudrais dire, c'est que le soin palliatif est une expression qui pourrait être désastreuse dans la mesure où j'étais en train de citer cet ami personnel sur lequel je donne des précisions dans une note, qui était atteint d'un malade incurable, d'un mal incurable, dès sa naissance, une maladie qui a emporté pratiquement tous les patients qui en étaient atteints. Il n'a jamais été guéri et il a vécu jusqu'à 85 ans. Et il a vécu en soins palliatifs pendant 85 ans. Mais ça ne l'a pas empêché de mener... Palliatif au sens où on n'a jamais pu le guérir. Mais ça ne l'a pas empêché de mener une carrière absolument remarquable. Il a été doyen de la faculté des sciences de ma bonne ville de Nantes. Il a été vice-président de l'université. Il a été maire adjoint. Il a été conseiller général. Enfin, il a eu une carrière éblouissante. Et il a été père de famille, grand-père, tout ce que vous voudrez. Bref, voilà quelqu'un qui a passé 83 ans de sa vie, 85 ans même de sa vie en soins palliatifs. Donc, n'identifions pas soins palliatifs avec soins de fin de vie. Le palliatif est ce qui accompagne le curatif, d'ailleurs, le plus souvent. Donc, disons simplement que prendre soin de quelqu'un, c'est lui permettre de vivre dans des conditions de confort maximal, même si les soins qui sont alors prodigués ne seront pas du même ordre que les soins curatifs. Encore qu'il faudrait, là encore, il faudrait être nuancé, parce que même en palliatif, on fait du curatif. Une personne qui va être emportée un jour par le mal principal qui la ronge, ben, peut avoir, par exemple, je sais pas moi, une angine, et on va faire du curatif sur son angine. Mais évidemment, ce curatif qui sera intégré aux soins palliatifs ne signifie pas qu'on va guérir la personne. Mais d'ailleurs, au bout du compte, toute personne est inguérissable, puisque, comme dit Woody Allen, la vie est une maladie mortelle. Donc, de toute façon, nous finirons tous un jour. Et donc, nous ne pouvons pas incriminer la médecine sous prétexte qu'elle n'aura pas réussi à, jusqu'au bout, nous sauver de la maladie. Il y en aura bien une qui va nous emporter.
Mais vous l'écrivez bien dans votre livre, hein, les soins palliatifs ajoutent aux soins traditionnels du corps les soins permettant de traiter la douleur, d'apaiser les peurs, de restaurer l'estime de soi. C'est là une action proprement éthique qui implique un jugement positif sur la dignité absolue de l'être démuni, affaibli, parfois angoissé, arrivé en fin de vie. Cette notion de dignité, elle est là prise à sa juste valeur, à sa juste définition.
Oui, parce que quand on a prétendu qu'on pouvait perdre sa dignité, être dans une échéance telle que la vie ne valait pas d'être continuée, je n'ai pas été le seul, je suis de ceux qui ont voulu redonner à la dignité l'éclat qu'elle n'aurait jamais dû perdre, cette notion.
C'est quoi cette notion de dignité, Jacques Rico ?
Elle nous vient à l'origine, tout simplement, du choix qu'ont fait les déclarants de 1948, lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'appuyer l'ensemble des droits des humains sur ce pilier qu'est la dignité. Regardez le début du préambule, considérant la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine.
Inaliénable.
C'est cette reconnaissance d'une dignité qui jamais ne peut se perdre, qui fonde justement l'ensemble des droits et l'ensemble de la conception que nous nous faisons de l'humain. Alors évidemment, il peut y avoir un deuxième usage, et je ne le récuse pas, du mot dignité qui dit je suis plus ou moins à la hauteur de normes que l'on m'assigne, bien sûr, mais à ce moment-là, si être paralysé, ça veut dire perdre sa dignité, eh bien, il y a un danger mortel, tout simplement, d'être en contradiction grave avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et le fait qu'elle ait placé la dignité comme valeur inconditionnelle de l'être humain, quel qu'il soit, quelle que soit son apparence, quel que soit le regard qu'autrui porte sur lui, quel que soit même, j'ose le dire, les crimes qu'il a pu commettre, eh bien, même cet être humain-là n'est pas un monstre, il n'est pas exclu de la communauté humaine. Pourquoi ? Parce que la dignité qui lui est intrinsèque ne peut jamais lui être ôté, encore une fois, quelle que soit sa dégradation, quelle que soit sa déchéance.
D'où l'incongruité de cette expression « mourir dans la dignité ».
Ah oui, c'est quelque chose qui m'a stupéfié, qui m'a même un peu révolté, je ne vous le cache pas, d'oser prendre l'étendard de la dignité pour dire « eh bien, il faut disparaître, la vie n'est plus une vie et donc elle ne mérite pas d'être continuée ». Il y a là, je crois, un enjeu éthique, hein, et c'est pourquoi le sous-titre de mon livre, c'est « L'éthique au cœur d'un choix de société », parce que moi qui contribue à la formation des personnels de santé pour beaucoup de mon temps, je vois que cette conception de la dignité, elle habite la plus modeste des aides-soignantes qui comprend très bien que son métier, c'est toujours et encore de conforter la personne dans l'estime d'elle-même et surtout pas de la conforter, comme le fait le discours médiatique de M. Romero et de quelques autres, dans son autodépréciation.
Pour terminer dans les quelques minutes qui nous restent, Jacques Ricot, dans ce débat, dans ces débats dont on nous assomme régulièrement dans notre société, comment faire? Comment réagir?
Alors, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je vois bien qu'il y a un mouvement dans nos sociétés occidentales d'hypermaîtrise de soi qui fait que l'on en demande toujours plus au corps social, au corps médical. Et comme dans les pays du Benelux ou maintenant au Québec, voire dans certains États américains ou en Suisse, il faudrait donner à chacun la possibilité de s'en aller quand il le veut et comme il le veut. J'observe d'ailleurs quand même qu'il y a un effet de loupe parce que les pays que je viens de citer ne représentent même pas 1%, 1,5% au grand maximum de la population mondiale. Partout ailleurs, il n'y a quand même pas ce réflexe-là d'hypermaîtrise. Mais je crois que, quels que soient les lendemains qui nous attendent, je crois qu'il y a une parole forte qui doit être dite aujourd'hui, même si, sauf évidemment dans une antenne comme la vôtre, on peut se faire entendre, même si il est difficile d'accéder justement à une parole publique sur ces questions. Donc il y a une parole à faire entendre, c'est « toi, qui que tu sois, ta vie mérite d'être accompagnée, d'être soutenue. Pourquoi ? Parce que, au fond, nous sommes liés par la fraternité. Et la fraternité qui consiste à dire, toi, puisque tu demandes à mourir, eh bien, je veux te faire mourir, je la trouve tragique, je la trouve délétère. Oh, je ne juge pas les personnes en disant cela, mais je m'interroge quand même sur ce discours social, sociétal, comme qu'on a presque envie de dire, qui finalement conduit à une désespérance généralisée. Derrière cette expansion indéfinie des droits individuels, se profile au contraire, je crois, quelque chose d'une société qui ne dit pas à quel point elle est tragique parce qu'elle a peur, elle a peur de n'être plus en conformité avec les standards qu'elle s'est donnés elle-même. Vous voyez rarement sur la couverture d'un magazine à grand tirage des personnes diminuées. Vous voyez plutôt, évidemment, des personnes jeunes, belles, en bonne santé.
Effectivement. Et d'où cette nécessité absolue de penser à la fin de vie, de repenser et de resituer tous ces mots que l'on a utilisés aujourd'hui, que ce soit la mort, la dignité, la liberté, etc., qu'on trouve évidemment dans votre livre. Jacques Ricot, je le rappelle, « Penser la fin de vie » avec ce sous-titre « L'éthique au cœur d'un choix de société » préfacé par Jean Leoniti et Philippe Pozzo di Borgo. Un livre qu'on peut se procurer facilement.
On peut se le procurer dans certaines librairies, dans les bonnes librairies, comme on dit, mais qu'on peut se procurer très facilement aussi directement auprès des presses de l'École des hautes études en santé publique, une maison d'édition qui est basée à Rennes et qui est spécialisée dans les ouvrages d'éthique médicale en particulier.
Merci beaucoup, Jacques Ricot, de nous avoir éclairés aujourd'hui.
Merci à vous, Sophie.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.